les jardinières.
Salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. On est parti pour une heure consacrée au jardinage, une heure pour passer en revue toutes vos questions relatives à vos espaces extérieurs et à vos plantes intérieures. Et notre équipe ne serait pas complète sans notre petite fleur, Sophie. Bonjour.
Bonjour Stéphanie. Le jour se lève sur notre week-end, le moment parfait pour anticiper une belle journée jardinage. Et lui aussi, il s'est levé à l'aube rien que pour vous. C'est Jean-Pierre Ribaud, jardinier à Ribaud Pays. À Queuve. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Nous sommes le 3 novembre 2018. La Toussaint est passée, mais l'automne, par contre, nous promet encore de belles journées et de bons moments à l'extérieur. Et quoi de mieux pour garder la santé que de jardiner, hein, je vous le donne en le mille. Que peut-on planter en cette saison? Est-ce déjà le bon moment pour préparer son jardin à l'hiver? On fait le plein de bons conseils et puis on répond évidemment à toutes vos questions avec Jean-Pierre Ribaud.
Des questions que vous pouvez lui poser dès maintenant en direct. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a notre standard téléphonique au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Jean-Pierre pourra alors vous répondre personnellement. Et vous pouvez aussi opter pour le SMS en envoyant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question, que vous envoyez le tout au 939. Il existe également un formulaire que vous trouverez sur nos sites sous l'onglet émission, question aux jardinières. Et puis un petit rappel, si vous choisissez l'option SMS ou formulaire, n'hésitez pas à bien détailler votre problème afin que la réponse puisse être développée au maximum.
Bon bah Sophie, je crois qu'on a tout dit, les jardinières, c'est parti.
Les jardinières, Sophie et Stéphanie.
Première question pour vous, Jean-Pierre. On parle de laurier à fleurs blanches. C'est Marianne qui nous demande si elles doivent recevoir de l'eau tous les jours.
Alors bonjour Marianne. Non, on ne peut pas dire qu'il doit recevoir de l'humidité chaque jour, mais il faut quand même une fois par semaine que cette plante ait, selon la grandeur de son pot, une portion d'eau acceptable. C'est des plantes qui supportent très bien le sec, qui supportent très bien les bacs, c'est pour ça qu'on aime bien les mettre en décoration sur terrasse, mais une fois par semaine, c'est indispensable, effectivement. Et puis après, sur l'automne ou l'hiver, quand la période d'hibernation se présente, eh bien c'est identique, il faut absolument conserver un peu d'humidité dans le pot, parce que la plante, elle continue quand même de s'irriguer malgré la période de végétation morte. Et puis, si vous ne l'irriguez pas assez durant cette période-là, eh bien, au printemps, vous n'aurez plus grand-chose dans le pot à part que du sec.
Et on a... Oui.
Oui, allez-y Sophie, c'est vous que vous aviez une question là, par rapport au tuyat.
Exactement, au tuyat. Une question qui nous vient de Denis de Cornol. Il vous demande plutôt, Jean-Pierre, quelle est la meilleure période pour tailler une haie de tuyat? Peut-on encore la tailler après les premières gelées? Merci.
Oui, bien sûr, oui. Bonjour Denis. En fait, la meilleure période de la taille de la haie de tuya, ou que ce soit de laurier ou de charme ou toute autre haie, on dit dans la période du mois d'août. Pourquoi le mois d'août? Parce qu'on est en fin de pousse végétative durant l'année, et puis elle restera super belle jusqu'au mois de mai l'année d'après, parce qu'elle n'aura pas redémarré jusque-là. Après, il faut juste savoir que le tuya, on ne peut pas se permettre de le tailler trop méchamment, il faut enlever uniquement la pousse de l'année, parce que si malheureusement vous allez un peu trop à l'intérieur avec le taille haie, et puis que vous le dégagez, vous les tombez dans des éléments qui seront trop anciens pour redémarrer, et puis là vous les créez des grosses zones sèches sur votre haie de tuya. Aussi, juste rappeler que comme cet été, si vous jetez un coup d'œil sur les pourtours des routes, il y a eu énormément de casses, de secs sur le tuya. Il faut juste, par des périodes comme on a eu, de temps en temps arroser votre tuya, et puis l'arroser vraiment au pied, parce que si vous l'arrosez un peu trop loin par rapport au pied, eh bien la plante elle-même se fait un parapluie, l'humidité n'arrive pas au pied, et puis le tuya ne supporte pas cette période parce qu'il aime absolument beaucoup d'humidité.
Justement, on parle d'humidité, est-ce que le fait qu'il y ait trop de pluie lors de la taille, ça peut peut-être affecter la pousse du tuya, le pourrissement, etc.?
Non, pas du tout. Que ce soit du froid, que ce soit de l'humidité au niveau de la taille, il n'y a pas de souci. C'est seulement dans la période d'été où si vraiment il y a trop de sec, là on a énormément de casse sur le tuya. Je dirais que c'est la haie la plus délicate à mettre en place. Il y a des haies qui sont nettement plus faciles à implanter.
Comme on a eu pas mal de grosses chaleurs là cet été, puis jusqu'à ces derniers jours d'ailleurs, est-ce que ça a un impact sur la date, sur la période de taille?
Non, pas du tout. Par contre, il faut juste encore penser maintenant que si vous avez une jeune haie et puis qu'elle est plantée sur un sommet de talus ou dans un espace où il n'y a pas beaucoup de terre végétale, ça vaudrait encore la peine de l'arroser même maintenant, parce que le dégât, quand vous le remarquerez sur la haie en question, il sera beaucoup trop tard pour intervenir. Puis à cette période, il demande encore de l'humidité, et puis c'est pas les 30-40 litres qu'on a eu eu là récemment, qui va faire que le tuyau aura eu beaucoup d'humidité, parce qu'effectivement, la plante elle-même se fait un parapluie, l'humidité tombe sur les extérieurs de la motte, ou à l'intérieur, il n'y a pas assez d'eau, voilà.
On a reçu une question hier de Nicole de Courgenay qui nous pose la question suivante. J'ai des clématites dans mes jardinières qui sont toutes sèches actuellement. Comment faut-il les tailler pour l'hiver ? Est-ce qu'il faut continuer à arroser la terre pendant le repos hivernal ?
Oui, alors ce qu'on ne sait pas dans l'histoire, c'est qu'est-ce que pour la jardinière, si c'est une plantation qui a été faite dans un bac, dans un pot, il y a de fortes chances que la plante n'a pas survécu aux périodes caniculaires qu'on a eues jusque-là. Après, si c'est une jardinière qui est quand même posée sur une surface où l'humidité est constante, elle a certainement eu une attaque de maladie, c'est pas trop grave. Il faudrait la tailler, je dirais, laisser une longueur de pouce maxi de 50 cm. Il faut savoir que la clématite est une plante qui fleurit sur le bois de l'année. Et puis, plus vous le taillerez, plus vous aurez une production de fleurs l'année d'après. Donc, 40 à 50 cm, et puis on peut enlever le reste.
Et justement, dans sa question, Nicole nous demande également si c'est pareil avec des cosmos.
Je connais moins le cosmos, c'est plutôt une plante de jardinier, horticulteur. Peut-être une question pour le futur.
Pour le prochain horticulteur qui va venir
exact,
nous voir.
Exact, je m'excuse.
Et on a une question qui vient de nous parvenir par SMS, d'une question qui vient de Nelly. Elle demande, qu'est-ce qu'on peut faire contre la mousse dans le gazon maintenant, donc en cette période de l'année ?
Oui, eh bien, bonjour Nelly. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la mousse à cette période ? Je dirais une petite scarification, en tout cas un épandage d'engrais pour fortifier la pelouse, pour qu'elle puisse passer l'hiver à un stade acceptable. Et puis, la plus grande lutte que vous pourrez occasionner sur cette mousse, ce sera au printemps, avec une bonne scarification, un sursemis, et puis l'entretien sur l'année prochaine, ce sera de lui mettre en tout cas 3 ou 4 fois de l'engrais. La mousse, elle arrive uniquement dans des sols qui sont pauvres ou humides. Et puis, la plupart du temps, c'est des sols qui sont très pauvres, parce qu'humides, on n'est pas dans des terres qui conservent énormément l'humidité par chez nous. On peut avoir de temps en temps des zones à l'arrière d'une haie ou d'une maison qui sont peut-être plus ombragées, où là, le problème se pose par rapport à l'humidité. Mais en général, c'est surtout parce qu'on ne met pas assez d'engrais. Le gazon s'éclaircit parce qu'il vient chétif. Et puis, c'est soit ou la mauvaise herbe ou la mousse qui prend pied. Et puis après, pour s'en défaire, c'est plus compliqué.
Et la scarification, c'est pas encore le moment, ou c'est plus le moment, surtout.
On peut l'alléger un peu, cette mousse, à cette période, en faisant une petite scarification, mais pas en arrachant le trot, la pelouse, parce qu'à cette période, le gazon ne va plus beaucoup se raciner. Mm-hmm. Lui donner une petite folie d'engrais pour l'entretenir pour cet hiver qui survive quand même. Et puis, c'est vraiment au printemps qu'il faudrait l'attaquer.
Merci beaucoup Jean-Pierre Ribaud. Je rappelle que vous êtes en notre compagnie jusqu'à 8h. Sophie, il y a plusieurs moyens pour les auditeurs qui nous écoutent de poser leurs questions.
Oui, alors ben il y a 3 moyens exactement. Vous pouvez le faire par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Là, vous pourrez donc discuter directement avec Jean-Pierre et poser la question, ce qui est la manière la plus facile. Sinon, vous pouvez envoyer un SMS en envoyant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question et vous envoyez ça au 939. Ou alors, il y a encore le formulaire que vous trouvez sur nos sites sous l'onglet émission aux jardinières, émission questions aux jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Une question qui vient de nous parvenir par SMS donc au 939, une question qui nous vient de Cédric. Il demande qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer le pâturin du gazon.
Cédric, bonjour. Comment éliminer le pâturin ? En fait, c'est très facile. On prend un herbicide, malheureusement, qui est sélectif. Et puis, là, je ne vais pas vous citer de nom de produits, mais il y en a une quantité d'amalgames dans le commerce. C'est des produits qu'il faut utiliser avec un pulvérisateur à dos, bien sûr, avec le bon pourcentage. Et puis, de préférence, quand les nuits dépassent 10 degrés. Pourquoi ? Parce que le produit en question, c'est une hormone. Et puis, cette hormone, par le froid, ne travaille pas comme on le souhaite. C'est un produit qui va vous faire un sélectif total sur tout ce qui est des larges feuilles, ça veut dire le plantain, le dos de lion, le trèfle, toute cette quantité de plantes indésirables qu'on aurait dans la pelouse. Il faut juste pas oublier, après un sélectif de ce genre, de remettre une application d'engrais pour renforcer votre gazon, parce que si vous avez une arrivée de mauvaises herbes dans la pelouse, alors une petite arrivée c'est pas grave, une grosse arrivée c'est par le fait que vous avez justement une mauvaise terre, le gazon souffre, et puis comme la mauvaise herbe est beaucoup plus robuste avec un système racinaire nettement mieux adapté, eh bien elle va prendre place dans votre pelouse.
On a reçu une question sur un tout autre sujet. Jean-Pierre, on parle de compost. De la part de Coralie, qui nous dit que depuis des années, elle verse les cendres de sa cheminée dans son compost. Par contre, elle vient d'apprendre qu'il ne faudrait pas le faire, alors que ses 4 composteurs en contiennent. La question est donc la suivante. Son compost est-il dangereux pour ses plantes? Ou est-ce qu'il faut ouvrir finalement? Est-ce que c'est bien de mettre des cendres ou pas du tout? Bonne question, hein, de la part de Coralie.
Oui, eh bien, bonjour Coralie. En fait, la cendre, c'est un produit qui est neutre. Il est plutôt asphyxiant. Alors, ça dépend de la densité que vous avez de cendre dans votre compost. Après, il faut évidemment être clean au niveau de bois que vous allez consommer dans votre cheminée. Si c'est uniquement de la cendre de bois, alors vous pouvez le mettre en petite dose dans votre compost, le mélanger, mais pas à grande dose. Il est trop asphyxiant et puis ça reste un élément neutre. Après, c'est un système écologique pour l'utiliser, bien sûr. Simplement qu'il faut savoir que votre compost, il faut vraiment le retourner en tout cas 2 ou 3 fois par année. Plus le compost est grand, plus il est de meilleure qualité parce qu'il va partir en température. Plus la température sera élevée et plus ça va vous détruire tout ce qui est de semences, de racines, de mauvaises herbes que vous aurez eu l'occasion d'y mettre dans votre compost. Et puis si vous mettez trop de déchets de tonte, ce qui va arriver, il va être trop asphyxiant. Il faut vraiment avoir une certaine dose dans le matériel que vous mettrez dans votre compost, y compris avec la cendre.
On a une question cette fois-ci sur une plante d'intérieur. C'est Grégoire qui nous écrit qu'il a récemment reçu un petit bonsaï d'intérieur. Il aimerait savoir quand et comment l'arroser et surtout à quelle fréquence. Et est-ce que c'est bien, par exemple, de le brumiser?
Oui, alors le bonsaï, ça dépend un peu de l'espèce de plante qu'il a au niveau du bonsaï. Si c'est un charme, par exemple, il va supporter le sec. Le fait de supporter le sec, il va se développer anormalement et puis ça va vous améliorer la qualité de votre bonsaï. Après, si c'est une plante qui supporte plus l'humidité, justement, c'est la question qu'on ne sait pas. Alors oui, il faut le brumiser. Évidemment que ça vaut la peine parce qu'au niveau du feuillage, c'est quelque chose qui va enlever tout ce qui est des poussières, ce qui va améliorer la transformation de la photosynthèse. Et puis de temps en temps, même le bassiner dans un bac d'eau, ça peut se faire. Et puis après le ressortir, le laisser s'égoutter totalement. En général, le bonsaï, c'est pas une plante qui supporte vraiment le trop d'eau, mais couramment un peu d'eau, oui.
Et par rapport au bonsaï, peut-être d'autres, parce que les bonsaïs qu'on voit le plus, c'est les bonsaïs ficus, c'est bien ça?
Oui.
Oui. Est-ce qu'il y a des autres styles qui mériteraient d'autres soins?
Non, ils ont à peu près tous le même soin à être voués. Un peu d'engrais, parce qu'on est sur des éléments où la surface de terre est très très petite. Souvent un peu d'humidité. De temps en temps, un bon bassinage ne leur fait pas de tort. Et puis bien sûr, la taille, il faut la suivre régulièrement pour ne pas avoir des trop gros éléments à devoir sectionner. Et puis améliorer la qualité de votre bonsaï.
Et puis justement, si par exemple on met un bonsaï, si on achète un bonsaï dans un petit pot, qu'on le change de pot dans un plus grand, est-ce qu'il va s'adapter à la taille du pot ou pas du tout?
Alors oui, qu'il va s'adapter. Le problème, c'est qu'il va aussi trop pousser, et puis ça dépend de la grandeur du bonsaï que vous souhaiterez. En fait, le vrai bonsaï, c'est une plante qui doit vraiment souffrir, qui doit avoir un espace au niveau de son espace de pot très très restreint. Le fait qu'il souffre au niveau des racines l'empêche de se développer. Il se nanifie lui-même naturellement, ça vous évite aussi d'avoir de trop fortes tailles à faire. Et puis ça va aussi vous améliorer juste la qualité de la feuille qui sera plus petite parce qu'il souffre. Si vous imaginez une feuille de charme, admettons, je reviens sur ce bonsaï-là parce que c'est une plante qui est très très facile à tenir en bonsaï. S'il se développe trop, vous aurez aussi des grosses feuilles. Et puis ça n'a pas de façon une immense feuille sur un petit bonsaï. Tandis que si c'est un bonsaï qui végète, qu'on peut dire comme ça, la feuille sera aussi nanifiée. Et puis la qualité du bonsaï sera d'autant plus jolie.
Merci beaucoup Jean-Pierre Ribaud, vous êtes avec nous pendant encore une bonne grosse demi-heure. On reçoit des questions notamment par téléphone de la part de Anne, mais Sophie, on va la prendre tout à l'heure. Hein.
Oui, alors elle avait posé une question sur une petite plante qu'on reprendra du coup après la pause. Et vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez le faire soit par écrit au 939 en envoyant un message qui contient le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Ou alors vous pouvez aussi le faire par formulaire. Et sinon, comme Anne, vous pouvez le faire au 0901 70 20 20 pour nous appeler et soit poser la question directement à Jean-Pierre en direct ou alors nous la poser et c'est nous qui la poserons ensuite.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Retour dans les jardinières, comme tous les samedis, on vous accueille au saut du lit pour vous emmener sur le chemin qui mène au jardin. Et à cette période de l'année, vous avez certainement plein de questions à poser à notre professionnel Jean-Pierre Ribaud, jardinier et patron de l'entreprise Ribaud Paysage à Queuves. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
Et vous le savez, les jardinières, c'est votre émission. C'est grâce à vos questions qu'on l'a fait vivre. Des questions que vous pouvez poser au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous aurez ainsi l'occasion de discuter directement avec notre professionnel Jean-Pierre Ribaud. Et on lit également toutes vos questions par SMS. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot jardin suivi d'un espace, puis de votre question. Vous nous envoyez le tout au 939. Et puis sur notre site, vous trouverez également aussi un formulaire à remplir sous l'onglet « Émission, questions aux jardinières ». Et dans les deux cas, n'hésitez pas à bien détailler votre problème. On a reçu donc il y a quelques minutes, une question par téléphone de Anne, une question qui concerne des épines du Christ. Elle nous disait qu'elle en avait eu une qui était devenue très belle et très grande, et puis tellement grande qu'elle n'a pas pu la garder. Du coup, elle a voulu en acheter des petites. Et en fait, elle n'arrive pas à les garder, elles pourrissent et elle se demande qu'est-ce qu'elle fait de faux.
Oui, et bien bonjour. En fait, l'épine du Christ ou le forbia, c'est une plante qui supporte énormément le sec. Hein. Ce n'est pas une plante qui est sous nos latitudes en général. Elle vient vraiment des contrées très très sèches. En fait, à la base, c'est un arbuste qui peut venir jusqu'à 1 mètre, 1,50 m. Certainement, ce que vous faites faux avec vos jeunes plants, c'est qu'ils ont trop d'humidité. C'est vraiment une plante qui n'apprécie pas l'humidité dormante, qui préfère avoir une période un peu sèche, de déshydratation, et puis avec une humidité redonnée, eh bien, elle va s'épanouir plus facilement que d'avoir une humidité trop constante. Et puis, c'est peut-être aussi, alors je ne sais pas, quand vous les achetez, quelle est la sorte de terreau. En général, le terreau de l'implantation de la jeune plante, il est correct. Si vous remplacez ce terreau, ou si vous rempotez cette plante dans un pot plus grand, cherchez à mettre un terreau qui ne conserve pas trop l'humidité, mais plutôt un terreau de baquet terrasse, un de ces terreaux qui est justement adapté à des zones, à des périodes plutôt sèches. Parce que si vous mettez un terreau qui a trop de tourbe, ce qui va arriver, cette tourbe va emmagasiner trop d'humidité, qui va vous développer des champignons au niveau des racines, et puis cette plante ne va pas supporter. Je pense que le problème, il est surtout là.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On vient de recevoir un SMS de la part de Coralie qui nous demande si elle peut conserver la menthe en pot pour l'hiver et surtout, ben, si oui, comment ?
Oui, eh bien, bonjour Coralie. En fait, la menthe, le plus facile pour la conserver, alors je ne connais pas votre situation, si vous avez un potager, si vous avez un espace vert autour de chez vous, le mieux est d'y mettre dans cet espace un pot que vous enterrerez, en laissant 2 cm dépasser ce pot de la terre, et puis vous planterez votre menthe à l'intérieur de ce pot. L'avantage, c'est que durant l'hiver, il n'y aura pas besoin d'assurer un arrosage. C'est une plante qui va s'épanouir comme si elle était dans son milieu naturel, et puis vous n'aurez pas le désagrément d'avoir une stolonifération là, de la menthe. Il faut savoir que c'est comme le chiendent, c'est une plante qui a des racines souterraines très traçantes, et puis c'est très très envahissant la menthe. Alors pour éviter cet envahissement, eh bien, l'avantage d'y mettre un bout de tuyau, un pot ou quelque chose comme ça dans le terrain, eh bien, ça va passer l'hiver sans problème. Après, si c'est pour faire passer ce plant de menthe sur un balcon ou dans un espace aérien, eh bien, elle va supporter, c'est pas le souci, c'est simplement qu'il faudra quand même assurer un arrosage, parce que c'est pas une plante qui va passer l'hiver sans eau, donc il faudra juste pas oublier de l'arroser. On peut la laisser dehors, s'il n'y a pas trop de soucis, c'est une plante vivace de chez nous qui est très robuste en fait.
Merci Jean-Pierre. Une autre question reçue, elle nous vient de Marie de Bienne et elle nous dit « Pour cet hiver, j'aimerais faire une petite jardinière surélevée comme on voit de plus en plus. J'ai un balcon, je pourrais donc la garder à l'extérieur. » Mais elle demande « Qu'est-ce que vous lui conseillerez de planter ?»
Oh, eh bien bonjour Marie. En fait, il faut savoir que ces jardinières qui sont supérieures au niveau du sol, sur des piquets ou sur des palettes ou des choses comme ça, c'est des espaces qui sont très très souffrants au niveau des végétaux, parce qu'en hiver il fait très très froid, hein, dans tous les sens, hein, en dessous, de côté et dessus, et puis en été, eh bien c'est très très sec. Quoi faire pour cet hiver, pour une plantation dans cette jardinière? Je vois pas trop quoi lui mettre. Hein. Faudra plutôt attendre ce printemps, débuter avec une potation de mini-mottes, de mottes ou des semis. Pour cet hiver, il y a pas grand-chose qu'elle peut faire dedans parce que la situation sera trop difficile pour les plantes. Et puis en plus, il y a plus grand-chose à planter maintenant dans la jardinière, hein, pour l'hiver. Plus grand-chose va passer l'hiver.
Et on n'arrête pas de recevoir des SMS hein, ce matin. Le dernier en date nous demande, donc nous dit qu'une personne donc, a des fraisiers dans un pot et elle aimerait savoir comment les conserver durant l'hiver, ces fraisiers.
Oh bien, ça dépend un peu de la fraise qu'elle a dans ce pot, mais en général avec un bon nettoyage et puis un peu d'arrosage durant l'hiver, ces fraisiers vont passer l'hiver. C'est pas un problème de froid, ce sera surtout un problème de sec, comme tout à l'heure on a cité. Après, un bon nettoyage, il faut enlever les stolons aussi, hein, au niveau des fraisiers, c'est une plante qui en général produit énormément de stolons. Ça permet aussi justement de régénérer un peu ou de rajeunir cette plantation ou ce pot ou faire d'autres pots, mais c'est pas une plante difficile à passer l'hiver. Enlever la moitié du feuillage, couper tout ce qui est de passé, de taché, parce que de toute façon, ce feuillage au printemps il sera quand même complètement sec. J'ai pas trop de soucis pour son plant de fraisier.
Toujours concernant les fraisiers, Jean-Pierre Ribaud, est-ce que les plants, ça vit plusieurs années ou est-ce qu'au bout de tant d'années, finalement, ils perdent leur substrat et puis ça donne plus autant de fraises?
Non, pas du tout. Un plant de fraisier reste de la variété qu'il est du début à la fin. On peut avoir un plant de fraisier qui a 20 ans. En fait, c'est une multiplication qui est végétative et puis elle ne peut pas se transformer quand on fait une multiplication végétative. Elle peut se transformer uniquement quand c'est des multiplications par semis, là où on ne sait pas exactement quel est le pollen qui sera venu féconder votre fleur. Mais non, un plant de fraisier va rester à l'origine ce qu'il était. On peut de temps en temps régénérer les vieux plants par des jeunes plants de stolons hein, qui produisent énormément, c'est facile ça. Faut savoir que la fraise, c'est une plante qui aime quand même les sols profonds, riches, humifères, humides. Alors si vous plantez un massif de fraisiers, cherchez cette zone-là dans votre potager. Il y a, je dois encore aussi dire, un fraisier, Dr. Bauer, c'est la variété, qui est super intéressant au niveau de la couverture des talus. Alors, si vous avez un talus à couvrir et puis que vous ne savez que faire et puis que vous savez que c'est un espace qui est frais avec assez de terre, cette variété de fraises produit une quantité de stolons, une quantité de fraises évidemment. C'est une variété remontante, ça veut dire qu'elle va vous produire des fraises à partir du mois de juin et puis vous en aurez jusqu'au mois de septembre. Simplement, elle n'est pas très très grande, mais elle est presque aussi odorante que celle de la fraise des bois.
Avec ces histoires de fraises, on va faire une petite pause, hein, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être en notre compagnie ce matin. Sophie, vous allez nous rappeler les moyens, les différents moyens que les auditeurs ont pour poser leurs questions à Jean-Pierre Ribaud.
Oui, alors vous avez encore un petit quart d'heure pour poser vos questions. Vous pouvez le faire au 0901 70 20 20, donc par téléphone. Et là, vous pourrez directement parler avec Jean-Pierre Ribaud pour poser votre question. Vous pouvez aussi le faire par écrit, soit par formulaire que vous trouvez sur nos sites internet sous l'onglet émission questions jardinières. Ou alors, vous pouvez encore le faire par SMS au 939. Vous envoyez jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous envoyez le tout au 939.
Les jardinières.
Et on est toujours en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, jardinier à Keuf. Ça va toujours, Jean-Pierre ?
Nickel.
Bon, allez, on enchaîne avec une question topinambour que Céline nous a posée. Elle nous demande si justement c'est une bonne période, tout simplement, pour les topinambours. Elle a lu ça sur Internet, mais elle aimerait une confirmation. Et puis si oui, où est-ce qu'elle peut en trouver ? Parce qu'elle nous dit que c'est assez difficile à trouver comme ça dans les jardineries.
Oui, alors c'est vrai que le topinambour, ce n'est pas une plante qui est cultivée à grande dose. Je pense qu'elle va trouver quand même ce rhizome sur le marché des villes de Léman-Pantruy. On doit arriver à trouver quelques spécimens. Après, je n'ai pas vraiment compris la question. Si c'est la période pour les acheter
pour les planter.
Ah non, voilà. pour les planter, de toute façon pas. C'est quelque chose qui se plante au printemps. C'est comme un tubercule de patate. Vous mettez vos plants mères au printemps, je dirais même après le gel, hein, ça veut dire début mai, parce que c'est une plante qui est aussi sensible par rapport au gel. Et puis, vous le butez, et c'est quelque chose qui va se développer très fort, très vite, qui va vous faire des grands de pousses là, de 1,50 m, 2 mètres de haut. Et puis, à l'automne, eh bien, vous réceptionnez les jeunes tubercules qui se seront produits. C'est comme la pomme de terre.
Ok, donc de toute façon, donc, pour répondre simplement à Céline, c'est pas le moment.
C'est
pour
pas du tout
les topinambours.
C'est plutôt la période de la consommer.
Eh oui, voilà. Ce qui est pas mal non plus. On vient de recevoir, Jean-Pierre, un SMS qui nous dit « J'avais des cheveux d'ange dans un pot, mais elle est devenue toute jaune, cette plante. Est-ce que c'est possible que je l'ai trop arrosée ? Est-ce qu'elle peut repartir ?»
Alors c'est sûr qu'elle a été trop arrosée parce qu'elle est sensible à l'humidité, cette plante-là. Repartir, ça dépend du degré d'atteinte qu'elle aura subi. La meilleure des solutions, c'est d'enlever la sous-tasse, de mettre cette plante dans un espace quand même où il y a de la luminosité, pas trop froid, et puis voir comment est-ce qu'elle se comporte. Si elle continue de jaunir, c'est que le système racinaire aurait été trop atteint au niveau du problème de l'humidité. Et puis si elle se stabilise et puis qu'elle redémarre, ce qu'il faudra, c'est couper ces éléments qui sont tout jaunes, et puis ça va se rajeunir par du verre, sans oublier de ne plus trop l'arroser.
Donc rien n'est perdu, hein, pour cet auditeur qui vient de nous écrire.
Ça devrait jouer.
Ouais. Et puis, on continue avec les questions de vous qui nous écoutez, parce que Sophie, vous avez eu un auditeur ou une auditrice au téléphone et vous avez sa question.
Oui, alors j'ai eu Daisy au téléphone qui a une question qui concerne les passiflores. Elle a une passiflore qui est plantée contre sa maison et elle demande comment l'hiverner. Elle a déjà essayé de le faire l'année passée, mais ça n'a pas marché. Du coup, elle aimerait bien réussir cette année et elle a précisé qu'elle habite au Bayard, donc à plus de 1000 mètres d'altitude.
Oui, je pense que c'est vraiment une plante qui est un peu sujet au froid, hein. Même en étant protégée sur des hivers trop rigoureux, elle aura vraiment tout ça pour l'hivernation. Après, comme protection, des sacs de jute, des flims là, qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, ou un paillage, mais ça dépend toujours de l'intensité du froid. S'il y a des froids qui sont très très virulents avec des coups de bise, même les protections qu'on arrive à mettre en place ne vont pas permettre d'hiberner cette plante.
Une autre question qu'on vient de recevoir par SMS de la part de Jean-Daniel. À quel moment faut-il sortir les bulbes dahlias pour l'hivernage ?
Alors c'est le grand moment de les sortir, les dahlias. C'est une plante qui ne supporte pas le gel. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a encore vraiment de la fleur et de la feuille qui est virulente. Mais non, je pense que maintenant on peut les sortir, ces rhizomes. Mais bien les taper, pas trop démonter le pied en lui-même. Hein. On fait de temps en temps un peu de casse au niveau du rhizome parce que c'est riche. Mais c'est la bonne période. Et puis au niveau de l'hibernation, dans des cageots, dans un espace, une cave, un endroit où il ne fait pas, en tout cas pas chaud, ça c'est important, puis pas trop froid non plus, donc ça ne supporte pas le gel, ça veut passer l'hiver à une cave sans souci.
On a une question cette fois-ci qui concerne les figuiers en pot. C'est Emma qui nous a écrit « J'ai acheté un figuier en pot il y a un mois environ. Certaines feuilles se replient sur elles-mêmes et les bords sont devenus bruns. Je ne sais pas si c'est une maladie ou si c'est dû au manque ou à un surplus d'eau. Est-ce que vous pouvez l'aider, Jean-Pierre ?»
Oui, alors bien sûr, je pense que c'est déjà un surplus d'eau. Et puis le fait d'avoir été déplacé, d'être arrivé dans un espace où il n'était pas accoutumé, c'est tous des éléments qui peuvent faire que la plante a été un peu déstabilisée. Avec le temps, ça devrait se corriger, mais pas trop d'humidité pour le moment. On sait aussi qu'on arrive sur une période qui est délicate au niveau de l'hibernation de ces plantes, hein, parce que les chauffages vont tourner à plein régime, encore pas maintenant, parce que c'est encore pas un grand froid, mais ces chauffages vont assécher l'air, qui vont faire que c'est toutes des plantes qui vont souffrir. Donc ce qui est intéressant pour des plantes de ce genre, c'est de les mettre dans des espaces, des jardins d'hiver ou des corridors où il n'y a pas trop de température, ou aller chercher un endroit où, en tout cas pas à côté du radiateur, évidemment.
Et ouais, c'est vrai que maintenant, en fait, pas mal de plantes peuvent souffrir. Chauffage au sol aussi,
Oui, bien sûr.
C'est pas très bon. En fait, est-ce que c'est bien d'avoir comme un petit tabouret, peut-être, pour poser ces plantes ?
Alors, oui, bien sûr, mais après, il faut aussi éviter les fortes températures, parce que c'est pas des plantes qui supportent. Elles supporteraient les grandes températures avec une humidité constante importante, mais chez nous, on n'a pas cette humidité, puis on monte en température, et puis ça crée un déséquilibre au niveau du végétal.
C'est plutôt sec.
Ah oui, bien sûr, beaucoup trop sec, bien sûr.
Jean-Pierre, il est 7h54, on arrive à la fin de notre émission. Par contre, on a encore une petite question. Comme chaque semaine, on vous demande, qu'est-ce que vous conseillez à tous ceux qui nous écoutent de faire au jardin à cette période 3 novembre, hein, c'est vrai que ça commence à devenir assez frisquet, surtout la nuit.
Oui, bien sûr. Non, mais quelques conseils d'importance. Alors, on a dit au niveau des tuyaux, arrosez-les quand même, malgré l'humidité qu'on a eue, parce que sinon, vous aurez des gros dégâts au printemps. Au niveau des pelouses, ne laissez pas votre pelouse trop haute durant l'hiver, surtout les jeunes semis, parce que sinon, vous aurez une attaque de fonte de semis. C'est un champignon qui se développe, qui va vous faire un panachage horrible au printemps. Et puis, bien sûr, un ramassage de feuilles. Tout ce qui est des plantes vivaces, on peut les tailler, nettoyer. Au potager, on peut commencer les gros labours. Il reste plus grand-chose au niveau de ces potagers à réceptionner. Et puis préparer gentiment l'hiver pour aiguiser la bêche pour le printemps.
Merci beaucoup Jean-Pierre, l'horloge tourne et nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci à vous Jean-Pierre Ribaud d'être passé ce matin à notre studio pour répondre aux nombreuses questions des auditeurs.
Merci à vous, merci à tout le monde.
Et belle journée, donc à très bientôt. Et puis bien sûr, on revient déjà la semaine prochaine, hein, Sophie.
Oui, donc les jardinières reviennent samedi prochain pour un nouveau rendez-vous jardinage. Pour poser vos questions, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à samedi prochain. Vous pouvez le faire dès maintenant par SMS au 939 ou grâce au formulaire présent sur nos sites. Vos questions seront bien sûr traitées en priorité samedi prochain dès 7h. Bon week-end et à la semaine prochaine.
Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.